Le générique donne le ton musique de conquête spatiale pour introduire The First, le premier. C'est une des séries les plus attendues de ce début d'automne. Elle est disponible en Suisse depuis quelques jours via Téléclub OCS. Pascal Bernheim, vous l'avez vu pour nous, The First.
C'est ça, comme vous dites, The First, c'est le premier. Mais le premier quoi? Alors bon, maintenant on le sait, hein, c'est le premier être humain à poser le pied sur la planète Mars. Alors, je voudrais pas faire mafieuse, mais du côté du divulgachage, c'est un peu le sac de nœuds cette affaire, parce que les auditrices et les auditeurs des chroniqueuses savent que c'est pas notre genre de divulgacher, mais non. Sur ce coup-là, la série se débrouille très bien toute seule pour se prendre les pieds dans le tapis, à cause du titre, à cause de la bande-annonce et à cause du fait qu'on sait que c'est Sean Penn qui a le rôle principal masculin. Et quand on regarde la bande-annonce et qu'on arrive dans le premier épisode, on s'aperçoit que on assiste au lancement du premier vol habité en direction de Mars, mais Sean Penn n'est pas dans la fusée. Il a été débarqué de la mission quelques semaines plus tôt. Alors, c'est le premier. Alors, qu'est-ce qu'on déduit, hein, d'après vous?
On déduit que ça commence bien, cette histoire.
Ou mal, voilà. Ça dépend du point de vue. Effectivement, au bout de quelques secondes, on comprend que la fusée, elle explose et qu'il en reste que... Enfin, on retrouve tout, mais en tout petit morceau. Et donc, c'est pas anodin comme début. Ça met en place une dynamique qui va forger toute la suite du scénario de The First, et on comprend aussi très vite que c'est pas une simple série de science-fiction. Certes, on est en 2030, c'est-à-dire dans 5 minutes, en gros, l'environnement technologique du quotidien qu'on connaît aujourd'hui, à cette époque-là, il va fonctionner parfaitement, à la voix, ça marchera du premier coup tout le
ça,
temps.
Ça, c'est une grande réussite.
Oui, les voitures se conduisent toutes seules, sans problème, et ça, c'est vraiment de la science-fiction, ouais. À mon avis. Mais il y a bien d'autres choses dans cette série. La politique, par exemple, même si l'entreprise qui est chargée de ce voyage vers Mars est une entreprise privée, elle est mandatée par la NASA, ce qui suppose beaucoup d'argent public. Et justement, il y a un questionnement sur le bien fondé de telles dépenses, alors que d'autres besoins, pour le moins urgents, auraient besoin d'un financement, et ce serait pertinent, l'éducation, le climat, la protection sociale. Oui, même aux États-Unis d'Amérique, on espère qu'en 2030, elle sera sortie de ses trumpitudes.
Bon, des réticences sur le financement, mais on imagine quand même, Pascal, que les scientifiques qui sont impliqués dans le projet, ils ont des arguments à faire valoir pour poursuivre l'entreprise.
Oui, mais tels qu'ils sont montrés dans la série, ils sont pas extrêmement convaincants. Le personnage de Laz Ingraham, qui est interprété par Natasha McElhon, avec un talent évident, eh bien Laz Ingraham, c'est la CEO de cette société en charge du projet. C'est une brillante visionnaire, elle a quand même une aura assez persuasive, mais on nous la montre quand même un peu déconnectée de la réalité, et du coup ça enlève un peu de poids aux arguments des scientifiques. Mais le plus séduisant pour moi, outre la qualité du scénario qu'on doit à Beau Willimon, qui était aussi le papa de House of Cards, la réalisation qui est absolument toute de sobriété, la musique, comme on en a entendu un tout petit peu, et puis la distribution qui est vraiment excellente. Le plus séduisant pour moi, ce sont les réflexions métaphysiques des personnages qui engendrent chez nous aussi des réflexions du même type concernant cette fuite en avant, voire la fuite tout court. Parce qu'on a beau comparer ce voyage vers Mars, la conquête de l'espace, au voyage des Européens partis à la conquête du Nouveau Monde au XVIe siècle, l'idée de s'installer sur Mars pour cause de surpopulation ou de pollution ou les deux, c'est pas le projet le plus folichon de tout l'Ouest, parce que c'est pas vraiment attrayant comme destination, Mars. Et comme on le comprend en assistant à l'entraînement des astronautes, la nécessité qu'ils ont de se dépasser, d'aller plus loin, de repousser les limites, ça résonne parfaitement en parallèle avec cette conquête spatiale. Et puis, dans cette fuite de ces hommes et de ces femmes qui vont partir aussi loin avec les risques que ça comporte, ça y ajoute de l'égoïsme, de la lâcheté, parce qu'ils laissent tout derrière eux en partant le plus loin possible. Comme Sean Penn, donc le héros de la série, qui n'arrive pas à faire le deuil de son épouse, qui est aussi la mère de sa fille, mère d'une fille toxicomane, qu'il va abandonner malgré sa demande de rester, c'est vraiment une fuite totale, tant pis pour les conséquences. Donc chaque personnage a son histoire, chaque personnage a des motivations différentes, mais aucune ne peut se rattacher à une quelconque plus-value qui viserait l'humanité, que l'humanité pourrait retirer d'une telle expédition sur Mars.
Anne-Laure, vous l'avez vu aussi, hein, cette série The First. Pascal nous parlait de métaphysique. Vous y avez vu, vous, une question de philosophie morale?
Oui, c'est cette question, vous savez, d'éthique assez classique. Est-ce qu'on peut risquer de sacrifier quelques personnes si c'est pour espérer atteindre un but servant dans l'absolu, disons, à des millions de personnes, même si c'est encore là sans certitude. Mais, et donc là, on a la réponse de la scientifique, donc la magistrale, effectivement, Natasha McElhone, qui, sans surprise, est celle d'une utilitariste, c'est-à-dire la position qui revient à ce qu'on appelle aussi un conséquentialisme, c'est-à-dire qu'on mesure une action à l'aune de ses possibles conséquences. Donc oui, ça vaut le coup, parce que les conséquences seront plus importantes. Mais c'est évidemment une position très discutable pour un kantien, vous voyez, qui estime que la morale d'une action doit être évaluée indépendamment de ses conséquences. Eh ben non, aucun sacrifice n'est tolérable, aucune vie ne doit être mise en péril, donc sans doute que Kant aurait plutôt opté pour le camp des politiques qui misent davantage sur les solutions écologiques pour tenter de sauver la Terre. Mais The First ose, je trouve, quand même dire que le combat pour la conquête martienne peut devenir un combat écologique. C'est ça qui est assez, je trouve, audacieux dans cette série.
J'approuve.
Tout le monde approuve ce matin, c'est formidable. Lisbeth, oui. Quand on parle de conquête spatiale de Mars, effectivement, ça, évidemment, ça a beaucoup inspiré aussi les écrivains. On en retrouve
dans
la littérature.
Oui, en vous entendant, moi, ce qui m'amuse, c'est ce lien entre littérature et science. Évidemment, oui, la science-fiction littéraire a commencé à germer avec autour de Mars, et donc c'est notamment une découverte faite par un astronome italien qui avait remarqué qu'il y avait des lignes bizarres sur Mars et qui a commencé à dire ça peut pas être humain. Ça a percuté le cerveau d'un millionnaire américain, Percival Lowell, on est à la toute fin du 19e, qui consacre toute sa fortune à construire, à faire des recherches sur Mars, qui construit un laboratoire dans l'Arizona pour l'observer, et qui, en 1894, coup de tonnerre, annonce que ses chercheurs ont référencé 400 lignes qu'on a appelées les fameux canaux martiens, et il a conclu qu'il y avait forcément une civilisation sur Mars, et c'est là que ça a généré comme ça une floraison de livres, et notamment le fameux La guerre des mondes de H.G. Wells. Enfin voilà, j'aimais bien rappeler ce lien entre science et littérature.